RFI Midi. Florent Guignard.
C'est une somme colossale, 33 milliards de dollars et en particulier 20 milliards de dollars d'aide militaire directe pour l'Ukraine. C'est ce que propose Joe Biden, une enveloppe qui doit être approuvée par le Parlement des États-Unis. Alors, est-ce que les Occidentaux passent la vitesse supérieure dans cette guerre russe en Ukraine? On va voir ça avec notre invité Benjamin Haddad. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en relations internationales et directeur Europe du Centre de réflexion américain Atlantic Council. Et vous êtes aussi l'auteur de Paradis perdu, l'Amérique de Trump et la fin des illusions européennes. Alors, 33 milliards de dollars au total annoncés par Joe Biden hier. C'est peu pour les États-Unis, mais c'est énorme pour l'Ukraine.
Alors, c'est aussi beaucoup pour les États-Unis, hein, tout de même. C'est vrai que c'est une somme absolument considérable, qui est un saut en avant quantitatif pour les États-Unis, pour l'aide occidentale à l'Ukraine, qui se comptait jusqu'alors en quelques milliards. Là, on passe à 20 milliards d'aides militaires, 33 milliards d'aides totales. Ce n'est pas un changement de nature pour l'implication des États-Unis dans ce conflit, puisqu'on reste sur la même stratégie, c'est-à-dire que Joe Biden l'a répété encore hier dans son discours, les Américains ne s'impliquent pas directement dans le conflit, donc il n'y aura pas de troupes américaines en Ukraine, on avait refusé la zone d'exclusion aérienne, ça les Américains s'y refusent depuis avant même le conflit, mais en revanche on passe au cap supérieur en ce qui concerne l'aide pour que l'Ukraine puisse se défendre contre l'agression russe.
Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme d'hypocrisie? Est-ce que cet argument il peut tenir indéfiniment, qu'on entend depuis le début hein, dans la bouche des Occidentaux? Non, on n'est pas en guerre avec la Russie. Est-ce que ça peut tenir? Parce que là, on est quand même passé un cap supérieur en termes quantitatifs, vous l'avez dit.
Oui, on passe un cap supérieur en termes quantitatifs, essentiellement parce qu'on voit que déjà ça fonctionne sur le terrain. Les Russes reculent, les Ukrainiens sont en capacité de se défendre. Il faut se rappeler qu'il y avait eu beaucoup d'hésitations au début et même avant le conflit de la part des États-Unis, des débats à la Maison-Blanche pour savoir s'il fallait aider militairement l'Ukraine, puisque les Américains avaient certes prédit l'invasion. On se rappelle des renseignements très précis sur l'imminence, sur la dimension maximaliste de l'invasion russe. Mais en revanche, les Américains pensaient que le gouvernement ukrainien allait s'effondrer très rapidement, étaient très pessimistes sur la capacité des Ukrainiens à se défendre. Donc c'est en voyant que cette stratégie fonctionne que les Américains ont décidé de passer au cap supérieur, mais aussi en voyant que, jusqu'ici, les Russes refusent tout processus diplomatique sincère. On l'a vu par exemple en Turquie, hein, où il y avait un mince espoir de voir peut-être aboutir un cessez-le-feu. Et au contraire, c'est une séquence qui a été utilisée par la Russie pour se redéployer sur le terrain, pour gagner du temps. C'était un écran de fumée. Donc, c'est ce qui explique cette montée en gamme de la part des États-Unis, qui est aujourd'hui la seule stratégie qui peut espérer faire reculer les Russes et donc mettre fin au conflit. Comme l'a dit Joe Biden hier, l'inaction serait beaucoup plus coûteuse sur le plan humain comme sur le plan économique que cette action de soutien à l'Ukraine.
Est-ce qu'il s'agit seulement de faire reculer la Russie ou est-ce qu'il s'agit désormais de lui infliger une réelle défaite?
Alors, c'est vrai, on a vu là aussi un infléchissement du discours des dirigeants américains comme le secrétaire à la défense Austin qui s'est rendu à Kiev cette semaine, qui parle maintenant de victoire ukrainienne, défaite russe, ou en tout cas d'affaiblir la Russie au point où elle ne pourrait plus être en mesure d'envahir ses voisins. Donc on voit là effectivement une montée, mais je crois que si demain la Russie décidait de geler le conflit, de peut-être revenir à la table des négociations pour prendre ses gains et peut-être, par exemple, récupérer une partie du territoire entre le Donbass et la péninsule de Crimée en passant par Mariupol, qui reste vraiment un verrou stratégique important dans ce conflit, les États-Unis ne refuseraient pas un tel processus diplomatique.
Hier, Joe Biden, le président des États-Unis, a pointé un rapport de force. Il dit qu'il y a, en gros, 10 armes anti-chars du côté de l'Ukraine pour face à un char russe. Est-ce que ce rapport de force peut faire plier Vladimir Poutine?
Alors, de toute façon, seul le rapport de force pourra faire plier Vladimir Poutine. Et là, c'est vrai qu'on rentre dans une séquence du conflit qui va être plus dure, plus intense, dans un conflit plus classique, plus conventionnel entre chars d'assaut contre chars d'assaut dans le Donbass, où, dont une région importante est déjà contrôlée par la Russie depuis 2014 avec le soutien aux séparatistes pro-russes de Luhansk et Donetsk. Donc on est dans une séquence qui est très différente hein, de ce qu'on a vu par exemple autour de Kiev où les Ukrainiens essayaient de défendre contre un encerclement de ces villes. C'est aussi pour ça que les Ukrainiens ont besoin de matériel plus lourd et sont aujourd'hui dans un rapport de force qui était jusqu'ici défavorable face au matériel russe. Et seul le rapport de force sur le terrain, la réalité du terrain, pourra à un moment mettre fin au conflit. Donc il n'y a pas de distinction à faire de ce côté-là d'ailleurs entre la dimension militaire et la dimension diplomatique. Toute négociation viendra refléter ce qu'est le rapport de force sur le terrain à un instant T.
Et si Vladimir Poutine s'entête, s'il met ses menaces à exécution, la menace nucléaire, qu'est-ce qui peut se passer? On entend, notamment à la télévision russe ces derniers temps, parler, évoquer ouvertement de Troisième Guerre mondiale.
Alors, ce n'est pas nouveau hein, de la part de la Russie, en fait. Hein. C'était déjà une menace qui était souvent agité à l'ère soviétique. C'est un aveu de faiblesse de la part de la Russie. La Russie recule sur le plan conventionnel, sur le terrain. Et donc on entend ces menaces depuis le début du conflit. D'ailleurs, il faut rappeler que Vladimir Poutine avait mis en alerte ses forces nucléaires tactiques dans les tout premiers jours du conflit. C'est un message qui est envoyé aussi aux opinions publiques occidentales pour les intimider, pour les pousser à peut-être faire pression sur leur gouvernement pour ne pas fournir d'armes à l'Ukraine. Donc il ne faut pas se laisser ébranler et déstabiliser. Un tel usage de force non conventionnelle serait totalement sans précédent et serait, je pense, un saut dans l'inconnu, parce qu'il est rationnel dans ce conflit.
Merci beaucoup, Benjamin Haddad, pour vos explications sur ces derniers développements de la guerre de la Russie en Ukraine. Chercheur en relations internationales, directeur Europe du Centre de réflexion américain Atlantic Council, il est 14h21.